Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici le deuxième épisode de ma série consacrée à l'affaire Ranucci, cet homme qui, en 1976, a été condamné à mort et exécuté pour le meurtre 2 ans plus tôt d'une petite fille de 8 ans, Marie Dolores Rambla. Dans ce deuxième épisode, il s'agit de raconter ce qui s'est passé après l'exécution de Ranucci, dans les mois et les années qui suivent, et notamment lorsque sort le livre « Le pullover rouge » de Gilles Perrault. Et je préfère vous prévenir, si vous faites partie des gens qui ont cru au pullover rouge, vous allez être très secoués. Pour écrire ce deuxième chapitre, je me suis appuyé sur une série documentaire de Canal+, disponible sur MyCanal, Dolores, la malédiction du pullover rouge, réalisée par Julien Serré. Je le débrieferai tout à l'heure avec l'avocat Gilbert Collard, qui a été pendant des années et des années l'avocat des parents de la petite Marie Dolores Rambla. Je vous le redis, dans ce deuxième épisode, ça va secouer grave. La réalisation est signée Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
À 4h25 du matin, un fourgon quitte la prison des Baumettes. Il emporte le corps de Christian Ranucci vers le carré des suppliciés du cimetière Saint-Pierre. Quand il se réveille ce matin-là, Jean-Baptiste, qui a maintenant 9 ans, apprend la nouvelle par la radio. L'assassin de sa petite sœur a été exécuté. Et ce matin-là, il entend aussi son père à la radio. Heureux.
Maintenant, nous savons que la petite, elle a été vengée. Maintenant, il sait que ce salopard ne fera pas de mal à une autre personne que ma fille. Je suis catholique, mais dans les cas comme ça, même les catholiques sont pour la peine de mort. Les enfants sont sacrés. Alors, s'ils lui ont coupé la tronche, tant pis pour lui.
Et normalement, l'histoire s'arrête là. Mais en vérité, sans que personne ne s'en rende compte, une autre histoire commence, longue et douloureuse, qui va faire 2 morts de plus. Dans les mois qui suivent l'exécution de Ranucci, les Rambla veulent tourner la page. Alors ils décident de déménager. Ils s'installent rue Merle, dans le quartier Saint-Barnabé, où personne ne les connaît ou presque. Mais un événement vient contrarier leur plan. 2 ans après l'exécution de Ranucci, en 1978, un journaliste parisien, Gilles Perrault, annonce la sortie d'un livre, Le pullover rouge.
Des amis m'ont parlé de l'affaire, mais comme ça, en me disant c'est quelque chose qui n'est pas net, il y a eu des choses bizarres, il y a eu par exemple des témoignages qui ont été escamotés. Je ne l'ai pas vraiment cru. Et ce que j'ai trouvé, la réalité que j'ai découverte, dépassait tout ce que j'avais pu, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que je pouvais imaginer. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire ce livre pour raconter.
Le livre de Gilles Perrault prétend revisiter la vérité judiciaire de cette affaire. Il affirme que Ranucci est sans doute innocent et que le coupable serait un homme au pullover rouge. Un pull qu'on a retrouvé dans la champignonnière, non loin du corps de Marie Dolores, et qui n'a pu être attribué à personne.
Puisqu'ils avaient un suspect qui avait avoué, qui devenait par conséquent un coupable tout à fait convenable, eh bien on a éliminé délibérément, frauduleusement, crapuleusement du dossier tous ceux qui concernaient l'homme au pullover rouge, de façon à avoir un dossier qui colle.
Pour les Rambla, c'est un tremblement de terre. Ils étaient en train de tourner la page d'une vie douloureuse. L'histoire leur revient en pleine gueule. Et ils le vivent de manière d'autant plus injuste que derrière, la presse, trop contente de ce rebondissement, embraye derrière Perrault. Au point d'ailleurs que l'affaire change de nom. Ça n'est plus l'affaire Ranucci et encore moins l'affaire Marie Dolores. Maintenant, c'est l'affaire du pull-over rouge. Et le père Rambla est là, devant sa télé, à voir Gilles Perrault revisiter l'histoire de la mort de sa fille. Et il est furieux, furieux. Il prend ça pour une agression personnelle. Hijo de puta! Qui c'était, cet abruti? Il n'y connaît rien! Cagliati, abruti! Et ses enfants sont là. Et ils assistent à tout ça, Jean-Baptiste en tête. Pour lui aussi, l'affaire était résolue. Il vient d'avoir 9 ans. Il espérait tourner la page. Eh bien non. Avec sa famille, il doit porter le poids de la nouvelle vérité de cette affaire. Ils ont fait tuer Ranucci pour rien. Un jour, le père débarque dans une librairie de Marseille.
« Si demain, il voit encore ces livres-là, il vous casse tout. Vous y entendez? Il vous casse tout. »
Et après, il va voir son avocat, Gilbert Collard, et il veut faire interdire le livre de Perrault. « Ça n'est pas possible, monsieur Rambla. Il ne fait que défendre une thèse. Il ne diffame personne. Ça serait atteindre à la liberté d'expression, vous comprenez ?»« Non, il ne comprend pas. Enfin, comment voulez-vous qu'il comprenne ?» Et le face-à-face qui s'instaure entre lui et Gilles Perrault est totalement inégal. Le père Rambla, lui, c'est un homme simple, c'est un immigré andalou. Il roule en Solex, il vit en HLM. Alors qu'en face, Gilles Perrault, il est journaliste, il est écrivain, il est de gauche. Il sait argumenter, il sait débattre, et puis il a des amis haut placés. Son livre, Le pull-over rouge, va se vendre à près d'un million d'exemplaires. Et pourtant, il est truffé de contre-vérités. Truffé. Celle-là, par exemple, qu'il dégaine dans toutes ses interviews.
Le pull-over rouge, on va le retrouver à 1500 mètres du cadavre, dans cette champignonnière dont on a parlé. On va le faire flairer à un chien de la gendarmerie. Et le chien policier va faire 1500 mètres et arriver à la hauteur du buisson où on a retrouvé le cadavre de Marie Dolores.
C'est faux! C'est archi faux! Et de un, ça n'est pas un chien de la gendarmerie, mais un chien de la police. Quand on prétend connaître le dossier par cœur, c'est fâcheux. Et de deux, le chien n'est pas allé jusqu'au buisson, mais à 30 mètres du buisson. Et de trois, surtout, ce chien, les policiers ne lui ont jamais fait sentir le pull-over rouge, jamais! Ils l'ont fait partir de l'endroit où Ranucci était supposé s'être embourbé avec sa voiture. Rien de plus, le PV qui figure au dossier d'instruction est sans ambiguïté là-dessus. Il invente, Gilles Perrault, il invente pour défendre coûte que coûte sa théorie. Autre affirmation fausse de Perrault.
Le petit frère Jean Rambla dit, le ravisseur, cet homme avait une Simca 1100, une Simca grise.
Il a
6 ans, mais son père dit qu'il aime beaucoup les voitures, il connaît tous les modèles. Tout de même, les policiers se méfient, lui présentent plusieurs modèles de voitures, il désigne une Simca 1100. Or, Christian Ranucci a un coupé Peugeot 304.
Faux! Encore faux et doublement faux. Spontanément, le petit Jean-Baptiste a dit que la voiture était grise. Et il ne connaît absolument pas les marques de voiture. Son père a un Solex. Et ce n'est que quand on lui a demandé de montrer une voiture similaire sur le parking qu'il a désigné une Simca 1100 de police. Similaire, pas plus. Mettez-vous dans la tête du petit Jean-Baptiste, 9 ans à ce moment-là. On est en train de dire à longueur de journée, à la télé et à la radio, qu'il a menti. Puisque Ranucci n'avait pas de Simca 1100, mais un coupé 304 Peugeot. Allez, un autre mensonge de Gilles Perrault pour la route.
Ce qu'on va apprendre, mais longtemps après, car on ne le trouvera pas dans le dossier, c'est qu'un homme, de 35 ans à peu près, conduisant une Simca 1100, et usant du subterfuge du chien noir perdu, s'est attaqué à des enfants, dans les jours précédant l'enlèvement de la petite Marie-Dolores Rambla, s'est attaqué à des enfants dans un certain nombre de quartiers de Marseille.
On l'aurait appris longtemps après. Faux ! Encore faux ! Cette histoire de pull-over rouge apparaît dans le dossier d'instruction dans la bouche d'un gardien d'immeuble qui s'appelle Monsieur Martel et qui, dans une cité de Marseille, dit avoir vu un homme avec un pull-over rouge roulant dans une Simca 1100 aborder des enfants. Il dit que les policiers lui ont alors présenté le pull saisi dans la champignonnière.
Le pull-over qu'ils m'ont présenté, c'est le pull-over exact qui était sur ce type-là que j'ai vu. Le pull-over rouge, hein.
Sauf qu'au procès, ce gardien d'immeuble s'est complètement déballonné. Il n'était plus du tout sûr que c'était le même pull. Deuxième personne à avoir vu un homme au pull-over rouge. Madame Matti. C'est la mère de Ranucci, Madame Maton, qui fait sa connaissance juste avant le procès, alors qu'elle va rendre visite à son fils au parloir de la prison des Paumettes. Elles sympathisent, toutes les deux. Et voilà que d'un coup, cette Madame Matti affirme que dans son quartier, un homme avec un pull-over rouge a essayé de s'en prendre à sa fille et une de ses copines et tenté d'enlever un petit garçon. Un témoignage de dernière minute. Providentiel. Trop peut-être, pour être honnête. Parce qu'elle témoigne au procès, cette dame. Et tous ceux qui ont assisté à sa prestation à la barre, tous disent que sa santé, le faux témoignage à plein nez. Bref, de pull-over rouge, il ne reste finalement que ce pull rouge, effectivement, trouvé dans la champignonnière et qu'on n'a jamais pu relier au crime. Jamais. L'hypothèse la plus probable est qu'il était là par hasard, oublié par quelqu'un bien avant le crime. Alors, pourquoi est-il si léger, Gilles Perrault, avec la vérité de cette affaire? Eh bien, parce qu'il défend une cause qui est beaucoup plus grande dans son esprit que l'affaire Ranucci. L'abolition de la peine de mort. Il le dit lui-même.
S'il y a une chance, même faible, et à mon sens la chance n'est pas faible dans le cas de Ranucci, pour qu'on ait exécuté un innocent, alors effectivement on ne peut plus tuer quelqu'un dans ces conditions-là.
Mais fallait-il instrumenter l'histoire de la mort de Marie-Dolores Rambla pour défendre cette noble cause? Ça n'a pas l'air en tout cas de lui avoir causé beaucoup d'état d'âme. Et pour cause. Sa théorie du pull-over rouge est devenue l'argument de tous ceux qui militent pour l'abolition, y compris le plus honorable d'entre eux, Robert Badinter.
Il y a, dans la décision de peine de mort, quelque chose qui est insupportable. Pourquoi insupportable? Pour deux raisons. La première, c'est parce que on ne sait pas. Je veux dire, il n'y a pas de certitude absolue qui permette de dire « celui-là doit mourir pour cet acte-là ». Je prends l'exemple de Ranucci. Ranucci, vous le savez, a été condamné à mort.
Sauf qu'en face, il y a les Rambla. Les Rambla qui désormais reçoivent tous les jours des lettres anonymes. Tous les jours. Salauds, vendus, tueurs d'innocents. Des lettres et des appels téléphoniques. Et un jour, c'est le petit Jean-Baptiste qui décroche.
Allô? C'est toi? Jean Rambla? Tu sais ce qu'on fait aux petites vipères comme toi? On leur écrase la tête à coups de talon. On va te tuer, comme t'as fait tuer Ranucci.
Mettez-vous deux secondes à la place de ce petit garçon. Lui, son père, sa mère, son frère et sa petite sœur ont désormais sur le dos tous ceux qui défendent l'abolition de la peine de mort. C'est injuste. Et comment s'étonner qu'à un moment, le père Rambla se jette dans les bras du Front National? Récupération, bien sûr, infâme récupération. Mais lui, le père Rambla, Quel autre moyen a-t-il de peser, de trouver des soutiens face au rouleau compresseur du pullover rouge? Et c'est pas fini. Un an après, le livre est adapté au cinéma. Un film de Michel Drac. Et une fois de plus, le père Ramblin est vent debout. Je vais faire interdire ce film. C'est une atteinte à ma vie privée. C'est une atteinte à la mort de ma fille. Et le voilà embarqué dans un nouveau combat qu'il gagne partiellement. Le film est interdit à Marseille et dans le reste de la France, la justice ordonne de couper 4 séquences. Et ce qui devait arriver, arrive. Dans la foulée du livre, la mère de Christian Ranucci dépose une demande de révision. La première et pas la dernière. Et toute l'intelligentsia parisienne est derrière elle. La scène que je vais vous raconter maintenant se déroule quand le petit Jean-Baptiste est en troisième. Un jour, en classe de français, le professeur se lance dans un cours de grammaire en s'appuyant sur un livre de grammaire qui vient de sortir. Vous n'allez pas le croire. L'auteur de ce livre, pensant bien faire, a illustré son propos par un extrait du pullover rouge avec une photo du film. Le petit Jean-Baptiste voit ça. Il est hors de question que je fasse ce devoir, vous entendez? Hors de question! Ce livre, c'est que des mensonges! Et là, il se lève et il déchire le livre de grammaire devant le prof interloqué et devant toute la classe. Jean-Baptiste, tu te lèves et tu sors dehors! Ton attitude est inqualifiable! Retenez bien cette scène poignante si vous voulez comprendre la suite. En attendant, le jeune Jean-Baptiste est devenu la tête de turc de la cour de récréation. Et Ramla, c'est à cause de toi que ta sœur est morte. Et Ramla, c'est toi le coupable finalement, hein? C'est Baranucci, c'est toi. Misère, misère. Dans les années qui suivent ce raz-de-marée autour du pullover rouge, le père Ramla n'est que colère, colère et combat. Il se bat comme un diable contre les demandes de révision. Il harcèle ses avocats. Le dossier de l'affaire est devenu sa Bible. Il est là posé sur la table de la salle à manger. Il en connaît chaque page. Et puisqu'il ne peut rien faire contre le rouleau compresseur, alors il se bat pour des broutilles. Je me souviens que quand quelques années plus tard, nous avons tourné le numéro de Faites entrer l'accusé sur l'affaire Ranucci, il nous a envoyé son avocat.
Monsieur Ramblin ne souhaite pas que le nom de sa fille soit évoqué dans votre reportage. Et nous sommes d'accord. Ni le nom, ni le prénom.
Mais enfin, le prénom, pourquoi?
Parce que c'est la loi, monsieur. Il est interdit de citer même le prénom des victimes mineures. Et donc je vous demande de vous y conformer.
Dérisoire combat. À l'époque, j'avoue que je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je comprends. D'autant que nous nous sommes ensuite sentis obligés de donner dans notre film la parole à Gilles Perron. Nous l'avons fait par honnêteté. Et peut-être aussi par faiblesse. Si j'avais su... Dans les années qui suivent, combattre le pullover rouge et tout ce qui en découle devient l'obsession maladive du père Ramblin. Il ne pense plus qu'à ça. Il ne parle plus que de ça. Sa femme elle-même n'en peut plus. Il n'aimait pas que tu te battes toute ta vie, Pedro. Il faut tourner la paille. Il est un soupli. Tu as raison, bien sûr que tu as raison. Mais je t'en supplie. Arrête, arrête. Quand il part faire son régiment dans l'armée de l'air, le jeune Jean-Baptiste y voit surtout une occasion de souffler, de sortir de l'oppression du cocon familial, de respirer, enfin. Mais à chaque fois qu'il rentre en permission...
Il faut que je te montre rien, Baptiste, il y a de nouveau. Ils ont recommencé à me faire chier.
Et là, le père ressort son dossier et il lui montre ses papiers. Et ça recommence comme avant, comme toujours. Un calvaire à 18 ans. Un calvaire. Quand Jean-Baptiste rentre du service militaire, il ne prend pas une piole, un studio à lui. Il rentre à la maison. Et ce faisant, il replonge dans le chaudron familial éternellement bouillonnant. Il commence par faire un peu d'intérim, et puis il passe un diplôme de comptabilité, et il travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Mais tous les soirs, quand il rentre à la maison, son père le ramène à l'affaire. « Jean-Baptiste, il va engager un procès contre Seyil Perrault. Il faut que tu m'aides. D'accord ? C'est notre combat à tous les deux. » Et jamais nous ne laisserons salir la mémoire de Marie Dolores. Jamais. Et compte sur toi. Hein? Jamais. Et voilà comment, un jour de 1992, Jean-Baptiste Ramblat, qui a maintenant 24 ans, se retrouve sur le plateau de l'émission Enquête de vérité de Jean-Pierre Foucault sur TF1. Sommé de répondre une fois de plus aux mêmes questions.
Toute cette campagne en faveur d'une éventuelle erreur judiciaire, qu'est-ce que ça vous fait, vous, quelques 18 ans après ?
18 ans après, ben, ça nous crée d'énormes problèmes, notamment dans mon entourage. Des questions type en disant c'est lui, c'est pas lui. Puis moi, ma conviction personnelle, bon, j'ai relu le procès maintes fois, et puis ma conviction, c'est lui.
Ceux qui parlent d'erreur judiciaire, ce que je disais il y a un instant, se basent en réalité sur votre propre témoignage d'enfant. Il faut rappeler qu'à l'époque, vous aviez 6 ans et demi, et que ils ont dit que le ravisseur de votre sœur avait une Simca. Vous-même, vous auriez dit à l'époque, vous auriez mentionné la marque d'une voiture. Est-ce qu'il est bien raisonnable, à 6 ans et demi, de connaître parfaitement les voitures, les marques ?
De toute façon, je n'ai signalé aucune marque de véhicule. J'ai dit qu'il avait un véhicule gris, mais de là à dire la marque précise, non.
En tout, 3 requêtes en révision ont été déposées. Toutes les 3 ont été rejetées. Et voilà encore le jeune Jean-Baptiste sommé de s'expliquer à la télé aux côtés de son père et de leur avocat Jean-Marc Jurami.
Il ne faut pas se laisser entraîner par le flot. Il n'y aura pas de révision de procès, il n'y en aura jamais.
Jamais.
Ranucci, il est mort, ma sœur, elle est morte. Basta. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? 30 ans après, qu'est-ce que vous voulez faire encore ?
Qu'est-ce qu'on va faire de Ranucci ?
On va sauver la terre.
La colonne des rois.
On va faire de la poussière. Ça rien.
Pendant 5 ans, de 1995 jusqu'à l'an 2000, Jean-Baptiste Ramblat travaille dans une petite entreprise qui fabrique des croquettes pour les chiens et pour les chats. Il trouve que le patron n'est pas très correct avec sa femme. Est-ce que c'est pour ça qu'il couche avec elle ? Allez savoir. Et puis un jour, il se trouve au chômage. Et là, son père se décarcasse pour lui trouver un nouveau job. Et il va voir une de ses connaissances, Christian Chalençon, qui fait un métier bien séduisant. Il tient avec sa femme, Corinne, un restaurant itinérant spécialisé dans le cinéma. Ce sont eux qui nourrissent les acteurs et les techniciens sur les tournages des films. Dans le métier, on appelle ça un catering. Et à Marseille, le catering. Et un service à te demander, Christian. Est-ce que tu pourrais faire travailler mon fils, Jean-Baptiste ? Oui, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'il sait faire, ton fils ? Il fera ce que tu lui demandes. Ce que tu lui demandes. Et Chalençon, bonne patte, embauche Jean-Baptiste. Hé hey Jean, t'as pas nettoyé la table, qu'est-ce que tu fais, putain ? Je vais le faire, hein, Christian. Je vais le faire. Ne me dis pas tu vas le faire, tu le fais de suite. Tout ça pour dire que dès le début, Jean-Baptiste Ramblat s'avère être un employé moyen, très moyen. Et avec sa taciturne, pas souriant, et encore moins jovial avec les clients. Il fait son job, point. Et ça dure comme ça jusqu'en novembre 2004. Et puis d'un coup, la relation entre Jean-Baptiste et son patron Christian se dégrade. Jean-Baptiste se plaint d'être sous-payé, et surtout il demande à être déclaré, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc il décide de claquer la porte. À cette époque-là, personne n'a vu que Jean-Baptiste était une bombe à retardement. Personne n'a vu que le petit garçon qui, 30 ans plus tôt, a été le seul témoin de l'enlèvement de sa sœur Marie Dolores, était sur le point de basculer. Pour conclure ce deuxième épisode, le générique de la série de Canal+, Dolores, la malédiction du pullover rouge, film de Julien, série dont le premier numéro sera diffusé jeudi à 21h sur Canal+, et ensuite disponible sur MyCanal. C'était donc le deuxième épisode de notre série en trois épisodes. Il y aura un troisième épisode demain dont vous avez compris d'ores et déjà qu'il serait dramatique. Et pour débriefer cette deuxième histoire, j'ai décidé de faire appel à Maître Gilbert Collard. Vous avez donc été, Gilbert, à cette période précise, c'est-à-dire au moment de la sortie du livre Le Pullover Rouge, l'avocat de la famille Rambla. L'épisode d'aujourd'hui, Gilbert, dynamite, j'ai envie de dire enfin, ce qui a été longtemps tabou, c'est-à-dire le livre de Gilles Perrault, Le Pullover Rouge. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une mystification?
Ah, complètement. Moi, j'ai dès le début parlé de fétichisme littéraire destiné à mener un combat contre la peine de mort, mais qui a fait des victimes collatérales. Et quelles victimes, hein. J'ai accompagné les Rambla tout au long de leur histoire, hein. Le père est encore venu me voir quand Jean-Baptiste a été arrêté pour le premier crime qu'il a commis. Et j'ai correspondu très longtemps avec Jean-Baptiste, même après la première condamnation, relation difficile, parce que bon, elle était complètement submergée par l'ombre de Maria Dolores. Comment pourrais-je dire? C'est un combat idéologique qui a utilisé tous les arguments, avec l'appui, faut bien le dire, hein, de toute une intelligentsia, pour militer contre la peine de mort. Mais c'est un mensonge. Vous avez cité tout à l'heure plein d'arguments, mais il y en a un qui est fondamental et auquel jamais personne n'a pu répondre, même pas Gilles Perrault, c'est la découverte du couteau taché du sang de Maria Dolores. Ce couteau, Christian Ranucci, alors qu'il est à l'hôtel de police, par téléphone, indique aux gendarmes l'endroit où il se trouve. Comment aurait-il pu indiquer l'endroit où le couteau était enterré s'il ne l'y avait pas enterré? Sauf à supposer que les policiers auraient choisi d'enterrer un couteau taché du sang de Maria Dolores, de le découvrir et d'attribuer cette découverte à Christian Ranucci pour le perdre. Voilà. Jamais personne n'a pu surmonter cet argument, et même pas Giraud, et qui chaque fois du reste se réfugie derrière le pullover rouge, qui n'a pas été du procès à aucun moment, mais à aucun moment. C'est une fantastique production littéraire, c'est un élément de fétichisme littéraire qui a marché, qui a extraordinairement bien marché, mais qui a servi à faire beaucoup de mal à la famille Rambla pendant des années et des années et des années.
Est-ce que, en 1978, quand le livre sort, on peut dire publiquement ce livre est une mystification?
C'est impossible de le dire. J'ai essayé de le combattre en parlant des contes de Gilles Perrault. Je me suis fait insulter, alors que je suis profondément contre la peine de mort. Tout le monde le sait. Mais il était inaudible à l'époque, dans le contexte de ces années-là, de prendre parti contre le livre de Gilles Perrault. Nous avons été quelques-uns à le faire, on a été maltraités par Le Monde, on a été insultés par Libé, je veux dire que c'était inconcevable, quoi. On était des salauds parce que on combattait cette thèse du pullover rouge. Et voilà, c'est des moments de la vie où on se rend compte que il y a des combats qui sont périlleux à mener parce qu'on lutte contre une intelligentsia qui croit détenir la vérité, alors que La plupart des hommes et des femmes qui ont pris parti dans cette terrible affaire n'ont jamais lu le dossier. Jamais. Jamais.
Et alors l'adhésion des Français qui est incroyable, qui est presque magique, au livre Le Pullover Rouge, même d'ailleurs, je pense, de la part de ceux qui ne l'ont pas lu, on a l'impression que ça relève, comment dire, de la foi, de la religion.
Oui, vous savez, l'inconscient littéraire français doit beaucoup à Voltaire. Et beaucoup d'écrivains, à commencer par le magnifique Zola, ont rêvé ou rêvent d'être quelque part le Voltaire de l'affaire Calas. Je crois que c'est présent vraiment hein, dans un imaginaire littéraire français. Et quand un écrivain se dresse, sabre de stylo à la main, il y a la magie de la dénonciation de l'erreur judiciaire. Et immédiatement, tous les gens qui sont en frustration de combat, en frustration de lutte, chevauchent le combat de l'erreur judiciaire sans se rendre compte qu'ils chevauchent un combat mensonger. Parce que jamais personne, même après le procès, n'a parlé d'erreur judiciaire. Quand Ranucci est condamné, on parle peut-être d'erreur de justice, parce qu'on se dit qu'il ne méritait pas la peine de mort, mais ni les avocats, ni les journalistes n'évoquent l'erreur judiciaire. Il faudra que Gilles Perrault arrive, avec son talent de plume et son armée de relations, pour que l'on évoque à ce moment-là l'erreur judiciaire. Mais ce qui est fascinant, c'est de savoir que jamais avant, même pas les avocats de Christian Ranucci, ne parlaient d'erreur judiciaire.
Est-ce que vous pensez que dans la tête de Gilles Perrault, au fond, peu importe les mensonges, il sait que c'est pas très clair ce qu'il écrit et que c'est pas validé par le dossier d'instruction, mais puisque la cause est bonne, oui. Alors
il le sait, il le sait. Il le sait. Il le sait, j'en suis persuadé, c'est un honnête homme, Gilles Perrault. Enfin, un honnête homme. Intellectuellement, oui, on se comprend, quoi. Est-ce qu'on se comprend? Il ne se ment pas à lui-même, voilà. Mais on en a discuté tous les deux souvent. Et l'argument du couteau, il n'a jamais pu le surmonter.
C'est imparable.
Moi, je lui ai dit une fois, mais alors, il faut déposer des plaintes contre tous les policiers. Parce que ce sont les policiers qui délibérément ont caché le couteau pour faire de Ranucci, qu'ils ne connaissent pas, un assassin. Et faire condamner un innocent.
J'aimerais qu'on parle d'eux, maintenant, les Ramblins. Notamment de Jean-Baptiste, mais pas que. On a l'impression que face au pullover rouge, le père devient fou.
Oui. Le père, si vous voulez, a considéré le livre comme un deuxième assassinat. C'est très compliqué à expliquer parce que tout se mêle là-dedans, hein, le réel, l'irréel, le symbolique, le sentiment de culpabilité. Parce que quand on a un enfant qui est assassiné, qui s'est enlevé au pied de la maison, on se dit toujours « ça aurait pas dû arriver, voilà, avec ce pauvre Jean-Baptiste qui va porter le poids de la mort de sa sœur tout le temps. » Imaginez que à la maison, il y avait l'assiette de Maria Dolores hein, qui était toujours là, sur la table.
À côté du dossier.
Pendant des années.
À côté du dossier, d'une certaine
à
manière.
À côté du dossier, oui. Ouais. À côté du dossier, et que Jean-Baptiste était traîné dans tous les événements de l'affaire. Je le voyais souvent venir à mon bureau avec son père. J'avais l'impression qu'il était recouvert d'ombre. Il était tout le temps habillé en noir, 3 mètres derrière son père, sur un fauteuil, les mains sur les genoux, comme un gosse à l'école. Et il écoutait son père. Il disait pas un mot, jamais. Il venait, il repartait. Et on sentait un poids de tristesse sur lui. On avait l'impression qu'il était éternellement en deuil. Voilà. On a fait un mal à ce gosse, mais personne ne pourra l'imaginer. Le prof qu'il fait sortir de l'école parce qu'il se révolte contre un texte...
Le bouquin, c'est une scène effarante.
C'est une scène effarante, mais qu'est-ce qu'il a pu... avoir mal, qu'est-ce qu'il a pu se sentir abandonné, voilà. Il y a toutes sortes de responsabilités de la part de gens qui se croyaient de braves gens parce qu'ils menaient le combat contre la peine de mort, qui n'avaient pas lu le dossier, qui n'étaient au courant de rien, et qui faisaient du petit Jean-Baptiste celui qui, par ses erreurs, a jeté un innocent à la guillotine. On se rend pas compte du poids de culpabilité, de souffrance qu'on a mis sur les épaules de ce gamin.
Et la mère, alors? La mère, si j'ai bien compris, elle en a marre. Elle voudrait qu'il arrête.
Oui, la mère était une mère espagnole d'autrefois, une mère en noir, hein, une mère toujours silencieuse, qui, elle, avait compris qu'il fallait essayer de tourner la page, mais qui n'y arrivait pas, parce que le père était fou. Oui, oui, on devient fou de douleur, on devient fou de malheur. Ça existe. Moi, j'ai au moins vu cet homme-là représenter ce que l'on appelle être fou de malheur. Mmh. Et le livre n'a fait que réactiver en permanence, tous les jours, régulièrement, des émissions de télévision, des débats autour de la peine de mort, la réviviscence de toutes ces souffrances. Vous savez, chaque fois qu'on parlait de l'affaire, il revoyait sa fille morte, qu'il avait dû reconnaître. Mmh. Voilà, chaque fois on réactivait tout cela. Mmh. Mais c'était au nom de la bonne cause.
Alors la théorie de la série documentaire de Canal+, à laquelle d'ailleurs vous avez beaucoup participé, et à laquelle moi j'ai plutôt adhéré, sinon je ne l'aurais pas relayé, c'est que le livre Le Pullover Rouge est le déclencheur d'un mal-être chez Jean-Baptiste, qui va donc l'amener, ça sera l'objet du troisième épisode, à devenir deux fois tueur à son tour. Est-ce que vous pensez ça, vous aussi ?
Oui, je pense que le livre, si vous voulez, a été comme un réquisitoire sanglant, permanent, contre Jean-Baptiste. Parce que si Christian Ranucci est innocent, ce qui n'est pas le cas, s'il est guillotiné, c'est la faute de Jean-Baptiste. Et plusieurs fois, du reste, on le dira. Et alors, il a été le porteur de cette culpabilité qui n'était pas la sienne, mais qu'on a greffée sur son inconscient. Et je crois vraiment que ce gamin qui aurait pu être un saint est devenu un assassin par la faute de beaucoup de gens, qui ont utilisé cette histoire.
Il faut expliquer, oui. il y a une scène au deuxième procès, le procès pour le meurtre de Cynthia, qui l'a tué dans des conditions absolument effroyables.
Horrible, oui.
Effroyables, on lui demande pourquoi, et en gros, il répond « Ce jour-là, j'ai cru que je tuais Gilles Perrault. »
Oui.
Est-ce qu'il ne joue pas un peu facilement, à ce moment-là, de tout ce qu'il a subi pour justifier quelque chose d'abominable ?
Je ne crois pas. Il faudrait quasiment faire une psychanalyse de Jean-Baptiste pour comprendre. Mais ce n'est pas que Gilles Perrault qu'il tue ce jour-là. C'est dans cette image, il y a beaucoup de gens qu'il tue ce jour-là. Mmh. D'abord, peut-être se tue-t-il lui-même, peut-être. Mmh. Vous me direz, c'est facile de dire ça quand on voit la souffrance, là aussi, des victimes. Mais il y a une espèce de répétition, si vous voulez, une espèce de fatalisme du crime dans tout ça qui ne peut pas laisser indifférent au fonctionnement de l'inconscient, quoi. Moi j'ai rencontré, je vous dis vraiment, mais il faudrait du temps pour l'expliquer. C'était une ombre, ce garçon, quand il venait dans mon bureau. Et il y venait souvent avec son père, tenu en laisse par son père, qui tout le temps lui reprochait la mort de sa sœur, quand même. Bon.
Qu'il a instrumentalisé, quoi. Donc peut-être que quelque part, il y a aussi une petite responsabilité du père.
Ah oui, non, c'est dur à dire.
Mais oui.
Mais c'est une responsabilité involontaire, bien sûr. Mais faire d'un gamin de 7 ans, de 8 ans, l'assassin, par imprudence, de sa sœur, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Vous savez qu'il recevait des corrections à coups de ceinture de la part de son père, parce qu'il avait... Il avait malheureusement pas surveillé sa sœur comme il aurait dû la surveiller. Bon, tout cela, ça fait pas un homme heureux. Bon, ça n'excuse pas le crime ni les crimes, mais chaque fois qu'on est confronté à l'horreur, on est confronté à l'humain. Il n'y a pas d'indissociabilité de l'horreur et de l'humain. C'est terrible de cheminer dans ces nuits-là, mais moi je vois dans l'histoire de Jean-Baptiste un continuum. Voilà, c'est malheureux parce que tout cela a fait des victimes, mais les salauds sont bien en amont.
Merci beaucoup, Gilbert Collard, d'avoir accepté de débriefer ce deuxième épisode. J'ai tiré cette histoire d'un documentaire de Canal+, réalisé par Julien Seri. Dolores, la malédiction du pull-vert rouge, disponible sur MyCanal. La suite de notre série de podcasts dans le troisième épisode.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.